Nous voici en ce 15 août avec la grande fête, une fois encore une fête, de l'Assomption de Marie. C'est la fête où Marie va, dans sa plénitude, rejoindre la gloire de Dieu. Elle quitte ce monde terrestre pour arriver dans le monde divin. Pour tenter d'approfondir un petit peu ce mystère qui nous est donné là, il faut reprendre le début de l'humanité. Dieu nous a créés à son image, nous sommes donc destinés à avoir une vie en Dieu où tout se passerait bien. Et il y a ce fichu mystère du mal qui vient tout mettre en désordre, qui vient pervertir le chemin qui nous était proposé. Un chemin de vie et de plénitude. La première attitude du mal, c'est d'être menteur. Alors, vous allez mourir, dit-il, si vous mangez un de ces fruits-là. Donc, c'est une première caractéristique du mal. Et puis, à la deuxième interpellation, après la réponse de Ève, c'est de dire « Mais non, mais vous n'allez pas mourir, vous serez comme des dieux. » Voilà. Voilà le gros piège stupide, minable, du mal. Essayez de nous mettre en concurrence avec notre Créateur. Stupidité. Et voilà que des siècles et des siècles et des siècles après, il y a Marie. Qui a, dès sa conception, quelque chose de particulier, puisqu'elle n'est pas touchée par le péché. Et donc, elle n'est pas tentée comme nous par le mal. Et c'est pour cela qu'elle est vraiment un modèle pour nous. Quand nous reprenons les quelques éléments de sa vie qui sont racontés dans les évangiles, elle peut très fortement, comme une sœur aînée, même si on peut la considérer après comme notre mère, mais voilà, c'est l'aînée de l'Église, la première en chemin. Elle est là pour nous apprendre à écouter l'Esprit de Dieu pour mener à bien notre vie. Alors ça peut être dans des choses aussi vraiment extraordinaires, elle va être la mère de Dieu, la mère du Messie, mais on comprendra que c'est Dieu lui-même. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas comprendre intellectuellement, puisqu'elle est la créature de Dieu et qu'elle en est un tout à la fois la mère. Mais voilà, elle accepte la proposition que lui fait l'ange d'être la mère de celui qui t'a envoyé. Elle n'y comprend rien, mais elle dit simplement oui. Et peut-être que dans notre vie, parfois nous avons des oui radicaux à faire au-delà de toute compréhension. C'est intéressant aussi de voir que Marie, elle ne reste pas simplement dans sa relation au Christ, à son Fils, mais elle est à Cana et elle est attentive à ce qui se passe chez les humains. Et là, c'est pareil, très discrète. Une seule chose, ils n'ont plus de vin. Elle interpelle son fils car elle le connaît bien, très bien. Elle sait de quoi il est capable. Et c'est pour cela que dans la tradition, nous aimons nous adresser à Marie pour qu'elle-même prie son fils lorsque nous avons besoin de quelque chose. Elle est attentive à ce que nous vivons. Elle est celle aussi qui peut nous accompagner dans les moments plus difficiles. Quand lui, il a 12 ans, il fait une fugue. Il ne revient pas avec ses parents. On sait bien tous l'angoisse de parents quand l'enfant n'est plus là. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Elle retourne à Jérusalem, elle le cherche, elle n'a de cesse de le chercher jusqu'à temps qu'elle le retrouve. Là, c'est pareil, elle ne comprend pas tout ce qui se passe au temple, mais elle nous apprend à savoir quelle attitude avoir. Elle garde tous ces événements dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle les médite. Méditer ne veut pas dire je comprends tout, je saisis tout, je suis capable de tout expliquer, mais je me laisse travailler par ces événements pour pouvoir continuer mon chemin qui pourront me servir pour plus tard. Bien sûr, elle nous apprend quelque chose d'essentiel au Golgotha. Elle voit son fils souffrir. Il est humilié, rejeté, moqué, on lui crache au visage, on le fouette. Combien ça doit être dur pour une mère, mais elle reste là, elle fait face. Elle ne va pas faire l'épreuve à sa place, mais elle reste là. Un moment sur le chemin, elle est face à face, elle le soutient. Elle lui dit « Je continue à t'aimer ». Tu n'es pas seul. Et donc elle reste jusqu'à la fin, à la croix, contrairement aux apôtres qui sont partis. Elle nous apprend beaucoup pour ces chemins d'épreuve, qu'elle reste présente en nos vies. Jésus sait tellement bien combien une mère est importante pour un homme, une femme, qu'au moment le plus tragique de sa vie, alors qu'il aurait pu se replier que sur ses douleurs et ses souffrances, il se tourne vers le disciple bien-aimé et il dit « Voici ta mère ». Et il lui dit « Voici ton fils ». Le disciple que Jésus aimait, c'est chacun de nous. Si nous le désirons. Est-ce que nous sommes prêts à prendre Marie comme notre mère? Et aujourd'hui, nous sommes avec cette apothéose, la finalité. Au départ, le mal a voulu piéger Ève en lui disant « Non, non, vous serez comme des dieux ». Et là, Marie se retrouve totalement dans la divinité. Un mystère qu'on ne pourra comprendre que lorsque nous y serons, mais que nous gardons en espérance. En fin de compte, elle est cette preuve, par certains côtés, c'est une preuve, voilà, je te donne des arts, je te dis que ça fonctionne, je te dis que c'est une réussite, je te dis que c'est possible que le projet de Dieu se réalise. Elle est dans la gloire de Dieu. Et puis on va voir Marie, durant les siècles et les siècles, jusqu'à aujourd'hui, accompagner tous ses frères et sœurs en humanité. Elle fait régulièrement signe, c'est ce que nous appelons des apparitions, des miracles. Non pas pour parce qu'il y aurait peut-être quelques petits privilégiés, quelques petits chouchous, non, c'est simplement... Je te fais signe, toi l'humanité, si tu sais te mettre à l'écoute de mon fils, il va vous accompagner dans les épreuves que vous avez à vivre. Elle est là, Marie, dans ce que nous appelons le paradis, c'est-à-dire dans la vie même de Dieu. Qui peut bien s'entendre avec la longue prière de Jésus dans Saint Jean. Qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit en nous, comme moi je suis en toi et moi en eux. C'est de vivre cette communion, en plénitude, où tout est vérité, tout est lumière, Marie est celle donc qui nous apprend à discerner la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est loin d'être évident. Combien de chrétiens de sensibilités différentes, voire quasi opposées, sont absolument sûrs de faire la volonté de Dieu et que c'est comme ça qu'il faut le penser. Et chacun est absolument sincère. Et pourtant, nous avons sans cesse à réévaluer notre discernement sur le chemin où Dieu nous mène. Il y a toujours le risque, avec le mal qui rôde autour de nous, d'être dévié à un moment sans qu'on s'en aperçoive, et puis d'avoir été dans des excès. Même dans la dévotion à Marie, il y a parfois des excès. Il y a des gens qui sont plus mariologues que chrétiens. Ils mettent Marie comme une déesse presque. Alors que Marie, elle est fille de Dieu comme chacun de nous. Elle est la première, c'est vrai, car elle n'a pas été touchée par le péché. Parfois, il y a même des chants qui ne sont pas tout à fait ajustés de ce que l'on dit d'elle. Il peut être intéressant de reprendre ce que dit le dernier concile, Vatican II, sur la place de Marie. Elle est bien évidemment sa collaboratrice la plus proche, la plus intime. Il peut être intéressant, durant cette fête de l'Assomption et les jours qui vont suivre, de revisiter notre relation à Marie. Est-ce qu'elle est ma mère? Est-ce que j'ai plaisir à lui confier ce que je vis? Est-ce que je suis dans son intimité? Est-ce que je vois dans son regard l'amour d'une mère pour son enfant? Est-ce que je sais me reposer en elle quand tout va mal, me blottir dans ses bras pour lui demander son soutien? Car c'est son rôle principal de nous soutenir. Elle ne nous fait pas des choses magiques. Quel intérêt pour un randonneur d'aller sur une montagne avec un hélicoptère? Aucun intérêt. L'intérêt, c'est de faire l'ascension, de monter jusqu'en haut. Aussi dur que soit le chemin, mais d'accepter d'être soutenu par les autres. Dans les moments où je risque de défaillir. Soyons dans la joie de nous adresser régulièrement à Marie, en disant même le chapelet. J'aimerais les deux premières parties, deux premières phrases du « Je vous salue Marie » sont évangéliques. C'est la parole d'Élisabeth, c'est la parole de l'ange, et ensuite c'est la prière de l'Église. On demande à Marie de prier pour nous. Ah bien sûr, on insiste souvent sur le pauvre pécheur. Et c'est vrai que nous le sommes. Mais il y a une vérité plus forte que cette dénomination de l'humain. Avant d'être pécheur, je suis créature de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et c'est pour cela que dans le « Je vous salue Marie », régulièrement, quand je le dis, je remplace le pauvre pécheur par « Prie pour nous tes enfants » ou « Prie Dieu pour nous ses enfants ». Et puis, j'avais entendu aussi l'abbé Pierre qui disait, à la fin, lui, il ne disait pas « Maintenant et à l'heure de notre mort », qui nous fait attendre le dernier moment. Il disait « Prie pour nous maintenant et à l'heure de la rencontre ». Sous-entendu que la rencontre, ça va être au dernier moment, bien évidemment, mais à chaque instant de la journée, je peux aussi rencontrer le Christ, dans la rencontre avec un inconnu, ou un ami, ou un parent, ou un collègue. Il y a toujours une possibilité de rencontrer Dieu dans mon quotidien. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen.